France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's Andine Burhausi.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour à Gaza ce soir.
I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. You're talking about...
Donc vous la connaissez cette phrase, j'aimerais que l'Égypte accueille des gens, j'aimerais que la Jordanie accueille des gens. On parle d'environ 1,5 million personnes, on fait tout simplement le ménage là-dedans. C'est donc Donald Trump qui parle au retour de Las Vegas dans l'avion présidentiel. Le plan pour Gaza, avec des Gazaouis partagés entre l'Égypte et la Jordanie. Donc c'est pour lui faire le ménage. Bonsoir Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Vous êtes autrice du Livre noir de Gaza, publié l'année dernière aux éditions du Seuil. On sait déjà ce qu'ont répondu la Jordanie et l'Égypte, Agnès Levallois, on y reviendra. Pas sûr d'ailleurs que Trump s'arrête à un refus, on verra d'ailleurs ce que ça peut donner. Mais d'abord cette proposition, on sait bien que c'était celle de l'extrême droite israélienne depuis d'ailleurs un bout de temps. Est-ce que Trump est en train d'acter au fond ce qui est un but de guerre jamais explicité de cette sorte là, une bande de Gaza tellement invivable que la réinstallation sera impossible? Est-ce que c'est ça qu'il fait ou pas?
Oui, c'est-à-dire que Trump est vraiment dans l'idée selon laquelle il faut régler la question palestinienne, que la guerre à Gaza a démontré que de toute façon cette terre effectivement aujourd'hui est devenue complètement invivable, à proprement parler, en prenant le terme vraiment au premier sens de son sens. Donc oui, pour Trump, eh bien, on va régler la question, et la façon la plus simple de la régler, eh bien, c'est de faire partir tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc il est dans un comportement très basique, mais comme on le voit en ce moment avec le Groenland, avec le Panama, avec enfin, c'est sa manière de réagir. Et n'oublions pas quel est l'entourage de Trump qui est en charge de toute la question du rapport avec les Palestiniens et surtout avec l'État d'Israël, qui sont que des gens qui sont complètement en faveur de l'annexion, de la disparition des Palestiniens et du fait que les Palestiniens n'ont aucun droit à avoir un État. Donc c'est tout à fait cohérent dans cette logique-là.
Alors c'est cohérent, en même temps, est-ce qu'elle n'est pas en contradiction avec son précédent mouvement, au fond, puisque c'est lui qui impose un cessez-le-feu alors que Netanyahou aurait préféré attendre pour, j'y mets des guillemets, finir le travail, donc détruire encore plus la bande de Gaza. Dans le même geste, c'est lui qui redonne des bombes de 900 kilos que Biden avait retenues. C'est parfois compliqué à lire quand même, y compris dans cette situation-là, le Donald Trump. Hein.
Moi, je trouve que sa volonté d'obtenir un cessez-le-feu avant son investiture, c'est une façon d'écraser Biden, de montrer que Biden est décidément un incompétent, et c'est quand même ce qu'il a dit très clairement lors de l'investiture. Et donc, lui peut se présenter comme étant celui qui a tordu le bras à Netanyahou pour décider de ce cessez-le-feu. Mais quand on voit toutes les déclarations qui viennent ensuite, en fait, c'était simplement pour faire ce coup d'éclat dont il est tellement friand. Lui, ce qu'il veut simplement dire, je suis capable de... Et toutes les conséquences après, et même si la suite paraît complètement contradictoire, en fait, elle ne l'est pas du tout, parce que ça va complètement dans sa façon à lui de vouloir gérer les dossiers sans tenir compte en aucun cas des réalités. C'est, j'ai voulu montrer qu'avec moi, le cessez-le-feu était possible, alors que Biden, ça fait un an qu'il essaye, il n'y arrive pas, donc je suis le plus fort, et à partir de là, je fais ce que je veux.
Alors, en parlant de réalité, donc l'Égypte et la Jordanie ont dit non. L'Égypte avait déjà, s'était beaucoup fait tirer l'oreille pour accueillir un certain nombre de Palestiniens sur son territoire. Trump, faiseur de deal, comme il le dit, j'imagine qu'il ne va pas augmenter les droits de douane en Égypte et en Jordanie comme il le fait ailleurs. Donc la stratégie doit forcément être différente. Il veut par ailleurs relancer les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite, qui ne va sûrement pas laisser faire, à moins que... Encore une fois, là aussi, une fois qu'il a dit ça, qu'il a fait réagir là-dessus, la faisabilité semble quand même extrêmement faible, ou au contraire, le monde a changé depuis le 20 janvier, la faisabilité est bien là.
Alors, si on raisonne simplement, on se dit que la faisabilité est impossible. Mais avec Trump, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut se dire que ça peut être possible, pour savoir comment réagir face à cette hypothèse, même si, ce soir, elle paraît complètement aberrante et impensable. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que Trump, effectivement, ne va pas augmenter les droits de douane avec l'Égypte et la Jordanie, mais n'oubliez pas que les deux pays pour lesquels les Américains ont décidé, depuis l'investiture de Trump, de maintenir l'aide, c'est l'Égypte et Israël au nom des accords de paix signés en 79. Ce qui veut donc dire par là que les Américains ont un moyen de pression sur le président Sisi énorme, qui est une situation économique de l'Égypte catastrophique, 165 milliards de dettes, et donc une économie qui dépend complètement de l'aide américaine. Donc, est-ce qu'il peut utiliser cette carte pour dire à Sisi, il faut quand même en accepter. Je rappelle que Sisi avait préparé, il y a quelques mois, une zone de sécurité côté égyptien, pouvant accueillir 100 000 Palestiniens. Donc, est-ce que ça va être réactivé? En tous les cas, il ne faut pas balayer ça d'un revers de main.
Donc, on voit qu'il y a un levier, potentiellement, en tout cas vers l'Égypte. Est-ce qu'il y a un frein? On citait tout à l'heure l'Arabie Saoudite et les accords d'Abraham. Est-ce que ça, c'est un frein en revanche? Parce que avant, au moment des accords d'Abraham, on a bien senti que les Palestiniens n'étaient pas du tout dans le curseur de l'Arabie Saoudite. Maintenant, quand même, probablement un peu plus depuis le 7 octobre et ce qui s'en est suivi. Donc, est-ce que le frein, il est là ou pas, Agnès Levallois?
Oui, alors, moi, ce qui m'a frappé, je rentre d'Arabie Saoudite, ce qui m'a frappé, c'est de voir que la population saoudienne est vent debout contre la politique d'Israël.
Donc, la rue, oui.
Et tous les échos, toutes les discussions que j'ai eues montrent que il est impossible à ce stade pour le prince héritier Mohamed Ben Salman de signer des accords qui ne tiennent pas compte de la réalité palestinienne, puisque le prince héritier a vraiment besoin du soutien de sa population en cas de disparition de son père pour arriver au pouvoir. Donc il est obligé de ménager son opinion publique. On dit souvent qu'il n'y a pas d'opinion publique en Arabie, c'est faux. L'opinion publique s'exprime sur les réseaux sociaux et donc ça, il le sait parfaitement. Maintenant, il peut y avoir aussi une pirouette de la part du prince héritier qui va consister à dire: oui, j'ai négocié des droits pour les Palestiniens et donc il y aura des droits civiques accordés aux Palestiniens en Cisjordanie. Donc il peut y avoir. Mais ça risque d'être quand même très compliqué pour le prince héritier. Et donc là, il y a une équation que je ne sais pas encore comment on va pouvoir la résoudre entre les intérêts de Trump et les intérêts des Saoudiens.
Après, quand on regarde, vous l'avez dit, la bande de Gaza est dans un état inimaginable. Je vais donner quelques chiffres qui sont terrifiants. Deux tiers des bâtiments détruits, l'eau, l'électricité, n'en parle même pas. Les écoles, les hôpitaux, l'université, les mosquées, le peu d'agriculture est réduit aujourd'hui à rien. C'est l'ONU qui chiffre à 42 millions de mètres cubes les gravats. Ils ont même chiffré à 14 ans le temps de déblaiement. On ne parle que du déblaiement. Et les Palestiniens, on les voit et on comprend pourquoi, puisqu'ils ont peur d'en être chassés, sont en train de remonter vers le nord comme ils le peuvent. Une fois qu'on en est là, Agnès Levallois, qu'est-ce qu'on fait?
La stratégie israélienne est très claire et elle est exprimée de façon encore plus claire par les ministres d'extrême droite. C'est de rendre la situation tellement invivable que le seul objectif des Palestiniens, si la frontière est ouverte avec l'Égypte, c'est de partir, non pas parce qu'ils veulent abandonner leur terre, mais parce qu'effectivement, la vie n'est plus possible. Et ça, les Palestiniens de la bande de Gaza en sont tout à fait conscients, parce qu'ils sont eux-mêmes descendants des Palestiniens de 48, donc qui ont vécu la Nakba, la fameuse catastrophe. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de déclarations de Gazaouis qui disent, quoi qu'il arrive, on ne partira jamais, parce qu'on sait que si on part, on ne pourra plus jamais revenir. Mais jusqu'à quand, jusqu'à quel moment cette position respectable, parce que les Palestiniens veulent qu'on leur organise des droits, sera tenable au regard de l'impossibilité de vivre dans la bande de Gaza? Et c'est exactement ce sur quoi joue Israël et en particulier l'extrême droite, c'est-à-dire, nous, on leur conseille vivement de partir, parce que la situation n'est plus vivable. Mais c'est eux qui le décideront. Mais en ayant fait en sorte qu'il n'ait pas d'autre choix que de vouloir partir. Et c'est là où une situation qui est absolument insupportable pour les Gazaouis en particulier.
En termes de reconstruction, j'entends bien qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de reconstruction, mais justement, je me posais la question de savoir, quand on voit l'ampleur des dégâts, qui de toute façon a les reins financiers assez solides pour participer grandement à cette reconstruction. Encore une fois, on regarde vers le Golfe et on ne sait pas qui d'autre peut avoir des moyens aussi, aussi conséquents pour parler de reconstruction, sachant qu'on ne peut pas parler de reconstruction avant d'avoir parlé administration, pour savoir à qui on s'adresse, en fait, tout simplement, qui est l'interlocuteur. Alors, le cessez-le-feu, il est en cours, on est à peine dans la première phase, mais qu'est-ce qu'on voit poindre, Agnès Levallois? Est-ce qu'on se dit qu'on va rentrer dans l'entonnoir où, de toute façon, il n'y a pas de solution, parce qu'on ne peut rien commencer en termes de reconstruction sans avoir une solution qui serait vaguement une solution politique et pouvoir parler sur ces bases-là?
Ce que l'on voit, c'est que les Palestiniens eux-mêmes qui veulent rentrer chez eux sont prêts, à, avec les moyens du bord, si je puis dire, de toute façon, à essayer de faire en sorte de pouvoir vivre, même sous des tentes, même sous des plastiques, mais chez eux. Et on les voit qui reviennent vers le nord, alors que le nord de la bande de Gaza est absolument dans un état de dévastation inimaginable. Donc je crois qu'il y a une volonté de la part des Gazaouis de montrer que de toute façon, on les laissera pas, ils ne se laisseront pas partir et qu'ils veulent absolument rester. Maintenant, effectivement, il n'y a aucune solution politique, puisque pourquoi Netanyahou n'a jamais voulu de ce cessez-le-feu, même s'il a fini par accepter, c'est que justement, il n'avait absolument aucune proposition pour la suite. Qu'il veut éventuellement faire émerger quelques leaders palestiniens, mais qui seront compatibles avec les Israéliens, donc qui seront considérés comme des collaborateurs et qui se se feront immédiatement tuer par les par ceux qui trouveront que de toute façon c'est une trahison totale. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune possibilité d'envisager l'après et l'administration, sauf à se dire que de toute façon, c'est le Hamas qui, de fait, aujourd'hui, est en train d'administrer ou de faire en sorte de permettre le retour des Gazaouis pour montrer qu'ils sont toujours là. Parce que toute la stratégie qui a consisté à dire le Hamas ne pourra plus jamais rien faire en raison de ça, est faux. Avec qui Israël négocie? Avec le Hamas, et c'est le Hamas sur le terrain qui aujourd'hui permet, en tous les cas, ou va essayer de reprendre la main pour montrer qu'il est tout à fait légitime. Alors Israël dit qu'il est hors de question de l'admettre, mais de fait...
On va rentrer dans la deuxième phase du cessez-le-feu, où, à partir du mois de mars, à partir du 5 mars, hein, c'est très long, on savait que ce serait très long, et on sait bien aussi la difficulté au moment de rentrer dans cette deuxième phase. On sait déjà qu'un certain nombre d'otages sont morts, et on va à un moment rendre des morts, enfin c'est aussi terrifiant que ça, hein, c'est vraiment comme ça que ça marche. La question est de savoir ce qui va se passer dans cette phase 2. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que Trump lui-même a dit qu'il ne croyait pas en ce cessez-le-feu. Est-ce que, en creux, ce qu'il dit, je repense aux bombes dont on parlait tout à l'heure, c'est « si vous rebombardez, je ne m'y opposerai pas ». Est-ce que c'est ça qu'on entend en creux dans son discours?
Oui, et c'est ce que disent aussi un certain nombre de responsables du gouvernement de Netanyahou, et Netanyahou lui-même qui a dit que, de toute façon, à la fin de la première phase, il y aurait reprise de la guerre. Donc, ils sont complètement dans cette logique, et ce soutien de Trump qui décide de livrer ces bombes qu'avait refusé Biden de livrer...
C'est un blanc-seing pour repartir entre la phase 1 ou 2.
Puisque des bombes de cette nature n'ont rien à voir dans cette guerre à Gaza. Israël n'a pas besoin de ces bombes-là pour continuer la guerre à Gaza, parce que tout est détruit. Donc ça n'a aucun sens, si ce n'est un sens politique, de dire à Netanyahou, oui, bien sûr, on vous soutient et on vous soutiendra jusqu'au bout. Et donc si vous ne respectez pas la deuxième phase, de toute façon, on est derrière vous. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie.
Alors, moi, j'allais vous poser la question, ouais. Parce que je me souviens de Trump, Trump 1, il y a eu deux choses de Trump. Il y a eu le déménagement de l'ambassade à Jérusalem, et puis il y a cette phrase quand même qui disait clairement, il faudra de toute façon annexer la Cisjordanie. Est-ce que ça veut dire que la ligne de mire de Netanyahou, mais avec le blanc-seing de Trump, c'est exactement celle-là, selon vous?
Mais bien sûr, parce que la bande de Gaza n'a jamais été une priorité stratégique pour Israël, à part pour l'extrême droite. Mais Netanyahou, il n'en fait pas un point vraiment sensible. C'est la Cisjordanie, le point qui est vraiment le point le plus important. D'où la déclaration de Trump aussi, de faire partir les Palestiniens en Jordanie. Quand il vise les Palestiniens en Jordanie, ce sont les Cisjordaniens, c'est pas la population de Gaza. En se disant de toute façon qu'ils partent. Pour l'extrême droite, il a toujours été dit que la Jordanie était l'État palestinien et donc les Palestiniens n'ont rien à faire en Jordanie. Vous avez une partie de l'extrême droite qui dit aujourd'hui que ce sont les Palestiniens qui ont annexé la terre d'Israël. Et donc il est temps de faire partir ces Palestiniens qui habitent en Cisjordanie parce que ce sont eux qui ont annexé. Donc il y a eu un renversement total dans le discours par rapport à cette réalité. Donc c'est ça aujourd'hui ce dont il est question.
En quelques secondes, la fragilité de ce cessez-le-feu, justement sur une échelle de 1 à 10, si 10 est très fragile. Je vous écoute, j'ai l'impression que vous la mettez à 12 en fait, sur 10.
Oui, absolument.
Non, écoutez, c'est bien ce qu'on a compris, Agnès Levallois. Merci beaucoup. À très bientôt dans Un jour dans le monde. La suite, c'est le reportage au Japon ce soir où les jeunes filles se font refaire les paupières inférieures pour avoir des petites cernes, figurez-vous. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Xavier Demagny sous les radars.
Les Grecs manifestent 2 ans après la pire catastrophe ferroviaire du pays.
Le monde à 18h50, c'est vous, Franck Montebon. Salut Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Après la brouille hier entre les États-Unis et la Colombie, on verra si les droits de douanes sont une vraie menace brandie par Trump ou d'abord une arme de négociation.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, nous irons au Cap-Vert. L'archipel fête cette année les 50 ans de son indépendance. Un anniversaire en musique comme il se doit.
A tout de suite, le tour de la planète continue les amis. Voici Kendrick Lamar qui fera bientôt le concert de sa vie à la mi-temps du Super Bowl. Squabble Up, c'est dans la playlist de France Inter.
Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that Kamasi. IP, ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. When I hear music, it makes me dance. You got the music, now I need your chance. Oh, yeah.
Ye nigga couldn't try me in a tri-state. Muddy pass, but I get him splashed till he hydrated. Bounce out, know he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrating. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the price. What the fuck? I got hits, I got bucks, I got new paper cuts, I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracked and double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough. Fuck a plate, there you go, beat him up. Falling from a money tree, and it grow throughout the month. Spit a loogie at the camera, speed off, yeah, it's us. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up.
Hold up, where are you from?
Bye, bitch,
I'm finna go dumb. Sideways, bunk stump,
Viva,
I'm on one.
Thunk, 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 baby rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Broke on the flow, let me know if you clocking it. Brody won't go, but I know that he popping it. It was Wolf tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, these some hoe with the politics. Bitch with him and some bitch in him, that's a lot of bitch. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, here was Blackie Miles with the smearing off. Hee high, we outside, boy, they about to kill him off. Blaps on blaps, it's a fact, this a brick or all. Tell me why the fuck you niggas rap if it's fictional. Tell me why the fuck you niggas fed if you criminal. Hey, Dot, can I get a drop? I'm like, nigga, nah. Boom, coon from the west side to Senegal. It's a full moon, let the wolves out, I've been a dog. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, 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 squabble up.
Le reportage d'un jour dans le monde est au Japon ce soir, où la chirurgie esthétique séduit des femmes de plus en plus jeunes. Ce phénomène-là, on commence à le connaître, mais les demandes de ces jeunes femmes, vues d'ici, sont, comment dire, surprenantes. Par exemple, se faire de fines poches sous les yeux pour paraître plus mignonne. Et le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte.
En général, cela débute ainsi par l'envie d'imiter.
J'ai vu que des artistes comme l'actrice Satomi Ishihara avaient ce genre de paupières et j'ai trouvé ça mignon.
Faire comme une idole, avoir des paupières inférieures un peu protubérantes, presque gonflées, une mode parmi une frange de jeunes japonais et japonaises, celles et ceux qui ont les moyens de s'offrir des séances régulières de chirurgie esthétique. L'opération consiste en des injections dans les paupières inférieures d'acide hyaluronique, une pratique commune pour le chirurgien esthétique Kenichiro Sasaki qui nous reçoit dans son petit cabinet de Shibuya, quartier tokyoïte des dernières modes et tendances.
Les yeux sont la partie du visage qui soucie en premier lieu les jeunes japonais. Contrairement aux occidentaux, les femmes japonaises, et c'est vrai aussi pour les hommes, n'ont pas de grands yeux ni de nez bien sculptés. Ce sont donc là que se situent les retouches esthétiques les plus demandées. Ils et elles veulent à tout prix agrandir leurs yeux. Or, en gonflant un peu les paupières inférieures, le regard ressort plus.
Des jeunes filles déguisées en soubrettes qui interpellent les hommes plus ou moins jeunes sur les trottoirs d'Akihabara, quartier des animés, jeux vidéo et girls band, sont souvent des adeptes de cette pratique et ce n'est pas un hasard.
Beaucoup de jeunes filles veulent ressembler aux starlettes sud-coréennes qui ont des paupières inférieures très apparentes ou aux personnages féminins des animés japonais car cela a un côté mignon, adorable. Cette tendance de demande d'injection sous les yeux s'est amplifiée depuis ces 5 dernières années.
Et c'est cette apparence dite kawaii de femme-enfant au petit visage et aux yeux artificiellement agrandis qui fait florès, témoigne Momo.
Je fais des injections d'acide hyaluronique dans les paupières depuis un moment, et là j'en ai refait une parce que l'effet avait disparu, la précédente datant d'il y a environ 6 mois. Quand j'ai posté cela pour la première fois sur Instagram, j'ai reçu plein de questions sur la quantité injectée, la perception de la douleur, etc.
L'appréciation du résultat varie cependant en fonction des générations. Rien de choquant ni surprenant pour ces deux étudiantes.
Ce qu'on en pense ? Bah, c'est mignon. Les yeux paraissent plus grands, l'écart entre les yeux et la bouche est réduit et le visage semble plus fin. C'est mignon, très mignon. De toute façon, l'acide hyaluronique finit par disparaître seul, donc je ne pense pas que ce soit risqué. Enfin, j'en sais rien. Ce qui est plus embêtant, c'est que c'est un peu du gâchis, parce que ça disparaît avec le temps.
Mais les sexagénaires interrogées, elles, sont carrément perplexes.
C'est étrange, pas naturel, vraiment bizarre. Ça surprend. Notre génération ne faisait pas ça. Elles se rendront compte quand elles seront plus vieilles que c'était bizarre. Elles sont jeunes, elles n'en ont pas conscience. Elles veulent faire comme les filles qui se montrent ainsi en photo sur les réseaux sociaux. Faire pareil les rassure. Elles ne songent pas au risque. Elles foncent. C'est ça la jeunesse.
Et pourtant, le danger existe. Les prospectus et réseaux sociaux regorgent de publicités de cabinets d'esthétique plus ou moins sérieux qui cassent les prix sur ces opérations simples afin d'en vendre d'autres plus lucratives. Et certaines filles n'ont plus ensuite pour pleurer que leurs yeux aux paupières saccagées.
Karine Nishimura pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demani. Xavier, c'est d'abord en Grèce que nous allons avec plusieurs manifestations ce week-end.
Oui, deux ans après la catastrophe de Larissa, pire accident ferroviaire de l'histoire du pays. Au moins 40 000 Grecs, selon la police, ont donc défilé place Syntagma dans la capitale, Athènes, et dans le nord, à Thessalonique, pour réclamer justice. Le 28 février 2023, un train rempli de 350 passagers et qui reliait les deux villes percutait un autre train de fret, faisant 57 morts, dont beaucoup d'étudiants. Et si la responsabilité de l'accident a été imputée aux défaillances du réseau et à l'erreur humaine du chef de la gare de Larissa, beaucoup accusent aujourd'hui le gouvernement de dissimuler une partie de la vérité. Les familles de victimes affirment que le train de marchandises transportait des substances chimiques. Selon le rapport d'un expert qu'elles ont financé et mandaté, ces produits auraient provoqué l'incendie des trains lors de la collision et asphyxié les victimes encore vivantes malgré le choc.
Au Sri Lanka, le nouveau gouvernement fait le ménage.
Et veut définitivement débarrasser le pays de la corruption. Dans son viseur, notamment la famille Rajapaksa. Elle a longtemps régné sur l'île et fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires. Chez les Rajapaksa, il y a les frères Mahinda et Gotabaya. Ils ont tous les deux été présidents. Le premier a tenté un coup d'État en 2015. Le deuxième a été poussé vers la sortie il y a deux ans. Il y a aussi leurs enfants et notamment Yoshita, fils du premier, je ne sais pas si vous suivez Fabienne, qui a donc été inculpé ce week-end pour une affaire de blanchiment. On lui reproche d'avoir acheté, lorsque son père était au pouvoir, une maison avec des fonds d'une origine jugée douteuse. Son frère aîné, élu au Parlement, est lui aussi poursuivi dans une affaire similaire. Je crois qu'on a fait l'organigramme de l'arbre généalogique de la famille. C'est le nouveau président de gauche du pays, le premier dans l'histoire du Sri Lanka, élu en septembre, qui a promis d'accélérer ses poursuites. Il a renforcé les effectifs du parquet et de la police, mais se défend de mener une chasse aux sorcières. Le gouvernement a également sommé cinq anciens présidents, dont les deux fameux frères Rajapaksa, de quitter leur logement mis à disposition par l'État pour les reconvertir en hôtel ou en musée, histoire d'économiser quelques millions d'euros.
Ladies and gentlemen, the new $50 and $100 banknotes of Belize.
Voilà, ça n'arrive pas souvent, nous terminons au Belize.
Oui, petit royaume d'Amérique centrale, membre du Commonwealth, l'ancien empire britannique. Coincé entre la jungle guatémaltèque à l'ouest, la mer des Caraïbes à l'est et un petit bout de Mexique au nord, le Belize qui, 45 ans après son indépendance, va, figurez-vous, supprimer l'image de la reine Elisabeth II sur ses billets de banque. Le visage de la monarque décédée il y a un peu plus de deux ans sera remplacé sur le dollar belizéen par ceux des héros nationaux, dont celui de George Cadle Price, considéré comme le père de l'indépendance du pays. Initialement, le changement de visuel permet surtout d'intégrer de nouveaux paramètres de sécurité, mais c'est aussi, a justifié le Premier ministre, une étape de plus dans le retrait des vestiges et des derniers symboles du colonialisme.
Eh bien, dites-moi merci beaucoup, Xavier Demani. Vous partez, figurez-vous, avec Carole King dans un classique d'Aretha Franklin qu'elle revisite en piano-voix, le Make Me Feel Like a Natural Woman, ça date de 71. À tout de suite.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired.
Carole King et sa version de You Make Me Feel Like a Natural Woman sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde à 18h50, tout pile, Franck Madvoux.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, le ton est monté hier entre les États-Unis et la Colombie. Washington a menacé Bogota d'une hausse des droits de douane pour faire accepter le rapatriement d'immigrés colombiens. Et ce soir, vous nous dites pourquoi les droits de douane sont d'abord pour Trump un moyen de pression.
Oui, cette brève crise diplomatique pourrait bien servir de modèle aux adeptes du trumpisme, la manière forte, la menace pour parvenir à ses fins. Ce week-end, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a d'abord refusé l'atterrissage de deux avions militaires américains transportant des Colombiens expulsés des États-Unis. Riposte immédiate de Trump, il décrète une hausse de 25% des droits de douane sur tous les produits colombiens et même 50% dans une semaine. Petro renchérit, 50% de taxes en plus sur les produits américains et il s'en prend violemment au président républicain. « Je n'aime pas ton pétrole, Trump !» Il lui reproche sa cupidité, son arrogance. Dernier acte, le rabibochage. La Maison-Blanche annonce tarif hier soir que la Colombie accepte les conditions de Trump qui suspend sa menace.
Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette passe d'armes ?
D'abord Fabienne, c'est un duel entre deux rivaux politiques. Donald Trump, figure de droite, voire d'extrême droite, face à Gustavo Petro, président de gauche, ancien guérillero, qui veut affirmer l'indépendance de la Colombie. Un clash presque inévitable entre les dirigeants de pays pourtant alliés. Il y a bien sûr un peu de théâtre dans les faits. Bogota accepte régulièrement des vols de rapatriement, près de 500 depuis 2020, mais Petro se dit scandalisé du recours cette fois aux militaires pour expulser les immigrés colombiens. Il exige un traitement digne. De son côté, Trump prend de haut ce président socialiste qu'il juge impopulaire. Il veut se montrer inflexible sur l'immigration et ne rien céder à un pays très dépendant des États-Unis.
D'où l'augmentation des droits de douane.
Mais oui, les États-Unis sont le premier client de la Colombie. Plus d'un quart des exportations du pays. Ils peuvent donc exercer sur Bogota une forte pression économique à laquelle Gustavo Petro a fini par céder. Certes, le dirigeant colombien a sauvé la face, il a montré les muscles et sermonné Trump, mais le constat est implacable, il est très difficile de résister aux menaces économiques du mastodonte américain. C'est une leçon pour tous ceux que la nouvelle administration américaine a dans le collimateur, la Chine, le Mexique, le Canada, le Panama et son canal, et les pays européens comme le Danemark qui contrôle le Groenland convoité par Trump. Le milliardaire instaure un rapport de force au diable la bienséance diplomatique.
Mais est-ce que Trump est prêt à aller au bout sur les droits de douane ?
Alors, il est un peu tôt pour répondre à la question. Trump parle sans arrêt, c'est vrai, de droits de douane, les tariffs en anglais, le plus beau mot du dictionnaire, dit-il. Mais jusqu'ici, alors qu'il a tapé très fort, très vite dans d'autres domaines, aucune hausse de ses droits n'est encore entrée en vigueur. Peut-être à partir de samedi prochain pour la Chine, le Canada et le Mexique, à confirmer. Ces taxes ont en fait trois objectifs. Augmenter les recettes de l'État, inciter les entreprises étrangères à produire aux États-Unis et, troisième point, servir de moyen de pression, d'outil de négociation. Cette troisième option rassurerait les pays visés par Trump, mais aussi tous les Américains qui pensent que les droits de douane entraînent trop d'inflation. Reste un paramètre important, Fabienne. Pour rester crédible, Donald Trump ne pourra pas bluffer tout le temps. Il passera forcément à l'action à un moment.
Franck Madvon, merci beaucoup. À demain, le lundi, Cyril Sauvageau écoute Tourner la planète, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
La BO du monde se sort au Cap-Vert, Cyril. L'archipel célèbre les 50 ans de son indépendance, comme d'ailleurs toutes les anciennes colonies portugaises en Afrique. Un anniversaire qui se fête forcément en musique.
Comment pourrait-il en être autrement dans ce petit pays où la musique est un pilier de l'identité nationale, une ressource économique et touristique majeure. On estime qu'un emploi sur quatre dans l'archipel dépend de l'industrie musicale et ce n'est pas pour rien si le visage de Cesária Évora est imprimé sur les billets de banque.
Lá nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra, pó, cheio de amor.
Césaria, la reine incontestée de la morna capverdienne, disparue en 2011. Le succès mondial de la diva aux pieds nus a fait naître des vocations, a ouvert la voie à d'autres chanteuses de l'archipel comme Mayra Andrade. Il a aussi révélé les liens particuliers qui unissent les différents pays d'Afrique lusophone. Le saviez-vous, Fabienne, la plus célèbre chanson de Césaria Évora, Saudad, était une reprise, reprise du grand chanteur angolais Bonga. Soldado, 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 desci a terra de Cabo Verde. Soldado, 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 desci a terra de Cabo Verde. Cette proximité culturelle entre l'Angola et le Cap-Vert, ces anciennes colonies portugaises, on a pu le découvrir grâce au travail d'un formidable label musical, Lusafrica, une maison disque lancée à Paris dans les années 80 par un Cap-Verdien en exil, João da Silva, qui a énormément œuvré pour la reconnaissance de ses musiques en France, en Europe et dans le monde.
Et pour ce 50e anniversaire de l'indépendance, donc, un festival parisien se met aux couleurs de l'Afrique lusophone.
Le festival Au fil des voix, ce sera le week-end prochain, les 1er et 2 février au 360 dans le 18e arrondissement de Paris. On y entendra notamment un autre grand nom de la musique capverdienne, Mario Lucio. Son nom est moins connu du grand public, mais lui aussi est un monument national. Mario Lucio, ancien leader du groupe Cimentera, en solo depuis 20 ans. Il est également peintre, romancier. Il a même occupé de 2011 à 2016 le poste de ministre de la Culture. Et depuis, il a repris son activité de chanteur et s'apprête à sortir un nouveau disque. Indépendance, c'est le titre de cet album anniversaire. Mario Lucio avait 10 ans à l'été 75 quand le Cap-Vert s'est libéré de la tutelle portugaise. À l'époque, les Cap-Verdiens rêvent de changement, de prospérité, mais leur pays est pauvre, isolé. Les ressources naturelles sont rares. Il faudra attendre les années 2000 pour que les autorités se mettent à vraiment miser sur le tourisme. Une industrie aujourd'hui en plein boom avec la musique comme produit d'appel.
Et donc, bientôt 15 ans après la mort de Césaria Évora, la musique reste un symbole de fierté nationale pour les Cap-Verdiens.
Et la bonne nouvelle, c'est que le tourisme n'a pas tué la créativité. La musique capverdienne continue d'évoluer, d'intégrer de nouvelles influences. Dans la nouvelle génération qui se réapproprie cet héritage, il y a cette jeune femme originaire de Guinée-Bissau. Elle s'appelle Fatou Diakité. Elle est arrivée au Cap-Vert à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle vit à Mindelo. Fruit du métissage entre ces deux pays lusophones, elle ouvre de nouvelles perspectives à la musique du Cap-Vert.
Merci Cyril Sauvageau, vous reviendrez lundi prochain.